Voilà. Je vous remercie. Je vois que le premier jour des soldes a fait diminuer l'effectif présent. Avant de commencer le cours, puisque ce sont les dernières séances de l'année universitaire, je vais vous donner un peu de calendrier, puisque la chaire d'histoire contemporaine organise deux petits événements au mois de février. Donc, normalement, vous vérifierez sur le site du collège, évidemment, le 7 février, nous avons une journée complète à l'Amphi Albax dédiée à la mémoire de Gilles Weinstein pour la commémoration du premier anniversaire de son décès. Donc, un certain nombre d'universitaires de différents pays parleront de l'œuvre de Gilles Weinstein et de façon plus générale des études ottomanes. Et le 10 février, l'un des universitaires présents, le 7, fera une conférence, je crois, à 17h, toujours à l'Amphi Albax, sur un très, très beau sujet, M. Eldem Eldem de l'Université du Bosphore. Donc, il devrait nous parler, de, je cite, des mémoires, l'Empire ottoman, la Turquie et la question des modernités. Je vous encourage vivement à venir pour ces deux événements scientifiques qui sont complémentaires des activités de ma chaire. En tout cas, j'en suis l'organisateur, ou je feins d'en être l'organisateur, comme dirait Jean Cocteau. Nous allons aborder aujourd'hui Camp David II. On va y consacrer pratiquement 2 heures pour un événement de quelques jours. D'une part, parce que Camp David II concentre sur lui toutes les problématiques du processus de paix et en est en quelque part l'aboutissement ou le non-aboutissement. Je me rappelle, c'était un peu plus tard, c'était après Taba, en janvier 2001, un diplomate français qui était présent à Taba, qui me disait « ce n'est pas un échec, c'est un non-aboutissement ». Donc, en tout cas, ce sera l'aboutissement ou le non-aboutissement du processus de paix. Et puis, Camp David II est aussi fait partie de ces gammes d'événements ou de référents qui ponctuent la question de Palestine, au sens où la déclaration Balfour, la charte du mandat palestinien, conditionne toute l'histoire qui suit du mandat britannique sur la Palestine, le plan de partage de 1947 ou le non-partage de 1947 conditionne toute l'histoire jusqu'à 1967 et en un certain sens toute la postérité de 1967 se constitue sur une sorte d'exégèse permanente de la résolution de 142. Donc aujourd'hui, Camp David II constitue le même élément référentiel puisque les discussions qui sont en cours sous l'impulsion du secrétaire d'État John Kerry ne font que reprendre, retravailler, relabourer les pistes explorées à Camp David II. Et donc, en un sens, on est maintenant dans l'exégèse permanente des éléments de Camp David II, d'où la nécessité donc de voir en détail exactement ce qui s'est passé à Camp David II, d'autant plus nous le verrons que comme ça a été considéré comme un échec, chaque partie a fait reporter sur les autres la responsabilité de l'échec. Et donc il y a des polémiques permanentes pour comprendre ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé à Camp David II. Alors, je vous avais laissé la dernière fois au moment où le président des États-Unis adressait les convocations aux partis pour venir faire ce sommet. Et dans un contexte qui est difficile du côté palestinien, on profite pour rappeler une nouvelle fois par le comité central de l'OLP qu'à la fin de la période intérimaire, qui est prévue maintenant pour le 13 septembre 2000, il y aurait proclamation de l'État palestinien. Pas nécessairement le 13 septembre, mais en tout cas, il est assez clair que ce serait à la fin de l'année 2000. Le Hamas fait savoir qu'il refuserait toute cession, même la plus minime, des territoires palestiniens maintenant ou dans le futur, qu'il n'est pas question de reconnaître l'État d'Israël ou de coopérer à sa sécurité, mais en même temps fait savoir qu'il ne peut que se réjouir d'une libération d'une parcelle de territoire palestinien, ce qui en langue codée signifie que le Hamas ne s'opposerait pas à la création d'un État palestinien. Les responsables israéliens sont sûrs de la vanité du genre de pression que constitue cette proclamation de l'État, puisqu'ils contrôlent de fait tous les accès, toutes les ressources des territoires palestiniens, mais sont conscients du risque de violence que produirait une impasse politique durable. Néanmoins, en public, ils menacent d'annexion unilatérale en cas de proclamation de l'État palestinien et font clairement entendre qu'ils sont prêts à écraser brutalement tout soulèvement palestinien. Et Barak fait aussi largement entendre que dans ce cadre, il ferait un gouvernement d'union nationale avec le Likoud d'Ariel Sharon. Donc, chacun donc, utilise pression et contre-pression à la veille du sommet. Celui qui paraît le plus affaibli au départ, c'est Barak, puisqu'à l'annonce même du sommet, la Sharansky, le chef du parti des russophones, annonce sa démission du gouvernement israélien, puisqu'il considère qu'il n'y a pas de consensus en Israël sur la négociation et que la négociation devrait être menée par un gouvernement d'union nationale. Barak répond qu'il est prêt à gouverner avec un gouvernement minoritaire et que, de toute façon, si on arrive à un accord à Camp David, il serait entériné par un référendum qui, donc, l'ensemble de la population israélienne serait consulté. Les Israéliens trancheront, donc. Publiquement, il estime les chances de succès à 50%, et énumère les cinq lignes rouges qu'il s'engage à ne pas traverser ou dépasser. Pas de retour aux lignes du 4 juin 67, pas de division de Jérusalem qui restera intégralement sous souveraineté israélienne, pas de retour des réfugiés palestiniens en Israël, ni d'armées étrangères à l'ouest du Jourdain, ce qui signifie une présence militaire israélienne sur la vallée du Jourdain. 80 à 90% des colons seront regroupés dans des blocs de colonies vivant sous souveraineté israélienne, ce qui implique des annexions de territoire, et les Palestiniens devront faire une déclaration mettant fin au conflit, c'est-à-dire mettant fin à toute autre revendication une fois l'accord conclu. La réponse palestinienne est que ces déclarations sont des violations des accords et constituent un sabotage du sommet, et puis ensuite ils énumèrent leurs propres lignes rouges qui sont l'application de la résolution 242, c'est-à-dire le retour aux lignes du 4 juin 1967, un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Nouveau coup du sort pour Barak, après les russophones, ce sont les religieux du Chass et du Parti national religieux qui quittent le gouvernement, toujours du fait que Barak refuse de communiquer le contenu de ses véritables positions de négociation. Donc, il n'y a plus qu'un gouvernement minoritaire en Israël dont le sort repose sur le résultat de Camp David, soit il y a un accord, suivi d'un référendum, et si le référendum est positif, Barak se trouve consacré, soit il n'y a pas d'accord, et selon toute probabilité, c'est un gouvernement d'union nationale entre les travaillistes et le Likoud. Avant l'arrivée des leaders aux États-Unis, les équipes palestiniennes et israéliennes s'installent à Washington. Une dernière fois, les négociateurs palestiniens supplient les Américains de ne pas tout miser sur un sommet unique. Personne n'est prêt pour un accord qui serait à prendre ou à laisser, mais ils ne sont pas écoutés. Il faut dire que le président Clinton, qui a une très impressionnante force de travail, s'est lancé dans l'étude minutieuse des éléments du dossier des négociations et a relu les efforts de ses prédécesseurs, en particulier Carter à Camp David. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire la distinction entre Camp David 1, celui de Jimmy Carter, et Camp David 2, celui de Clinton. Néanmoins, les relations entre Clinton et Carter sont très tendues, puisque, je sais pas, vous savez, le président Carter mène sa politique étrangère depuis son départ du pouvoir. Il a créé une fondation pour la paix et multiplie les médiations internationales, ceci en étant séparé parfois contre la politique de son pays. Ça lui vaudra d'ailleurs un prix Nobel de la paix pour ses actions de médiation internationale. Mais donc, Clinton et Carter ne s'aiment guère, et donc Clinton ne consulte pas Carter sur la façon dont il a négocié à Camp David. Ah. C'est là le premier problème, c'est que Camp David 1 était beaucoup mieux préparé et dans des auspices beaucoup plus favorables que Camp David 2. À Camp David 1, Begin et Sadat disposaient d'un soutien intérieur puissant. L'Égyptien avait le contrôle de l'État et une vraie base populaire. Begin savait que de toute façon, l'opposition travailliste voterait pour un accord de paix, quel qu'il soit. Ce n'est pas le cas d'Arafat et de Barak, dont les positions intérieures sont particulièrement fragiles. Dès avant le voyage de Jérusalem à Jérusalem de Sadat, il était assez clairement entendu que le retrait israélien se ferait sur les lignes du 4 juin 67, qui correspondait de surcroît à une frontière internationale. Bien sûr, Begin avait mené à ce sujet une série de combats d'arrière-garde, mais c'était aussi pour lui un élément de marchandage. Sur ce point, Carter avait toujours été intransigeant, faisant de l'application intégrale de la résolution 242 la base de tout accord possible. Et c'est là où on est dans le paradoxe de la politique américaine, qui avait été depuis 1967 d'exiger des Palestiniens l'acceptation de la résolution 242 sans interdire aux Israéliens d'en rendre impossible l'application sur le terrain par l'annexion de Jérusalem-Est et la colonisation des territoires occupés. Certes, Washington avait régulièrement voté oui ou s'était abstenu lors des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité, considérant comme nulles et non avenues les mesures israéliennes, mais en pratique, l'érosion de la politique américaine avait été constante. La colonisation était ainsi passée d'une définition de colonisation illégale, puis ensuite d'obstacle à la paix à l'époque de George Bush et de James Baker, à facteur de complications sous la présidence de Clinton. Donc on voit le déclin constant de l'opposition américaine sur une trentaine d'années. Et de fait, l'administration Clinton a systématiquement sous-estimé le facteur. Au nom d'un réalisme défini par ce qu'un gouvernement israélien peut admettre comme règlement final, on a accepté à Washington l'idée que, de toute façon, une partie de la Cisjordanie sera annexée par Israël, et on pense trouver une formule qui permettra de faire accepter aux Palestiniens l'essentiel de l'annexion de Jérusalem par Israël. C'est là où on a un problème de culture politique. L'équipe américaine résume comme s'il s'agissait d'un conflit économique ou social. Les deux parties antagonistes développent des positions inconciliables. Le médiateur doit leur permettre de dégager des solutions de compromis, probablement à mi-chemin de leurs demandes initiales. Autrement dit, l'administration Clinton accepte dès le départ tous les présupposés israéliens en matière de légalité des annexions israéliennes. Il faut seulement en limiter l'ampleur. Le problème est que les Palestiniens s'accrochent désespérément à la légalité internationale définie par les résolutions de l'ONU, dont la 242, et par le droit à l'autodétermination. Ils ont la conviction que tout abandon de ces bases légales entraînerait inévitablement de nouvelles pertes de territoire. En abandonnant la revendication de l'ensemble de la Palestine historique et en se limitant à un État palestinien dans les limites du 4 juin 67, les Palestiniens jugent qu'ils ont fait les concessions maximales et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas admettre un Bantoustan enclavé et tronçonné en Cisjordanie. Ce n'est pas une garantie d'avenir pour le peuple palestinien. Bien sûr, dans les canaux parallèles de négociation, ces fameux track two, les représentants palestiniens ont avancé des aménagements. 2 à 3% d'annexion de la Cisjordanie contre un échange de territoires de valeur équivalente, par exemple en procédant à un agrandissement de la bande de Gaza. En ce qui concerne Jérusalem-Est, les Israéliens pourraient conserver les quartiers juifs établis depuis 1967. Pour la vieille ville, les Palestiniens sont prêts à céder le mur des Lamentations et le quartier dit juif. Pour les réfugiés, le talon d'Achille de l'ONP, qui n'a plus de vraie présence dans les masses palestiniennes de Jordanie, Syrie et Liban, il faudrait arriver à une reconnaissance du droit au retour de façon symbolique, tout en en tempérant l'importance en prenant en compte les réalités démographiques israéliennes. La communauté internationale aura à prendre en charge les dédommagements, maintenant définis à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le seul point acquis pour tout le monde est que la totalité de la bande de Gaza sera évacuée par les Israéliens. À Camp David II, on ne négocie pas des marchandises ou des salaires, mais de l'histoire. Celle des conflits de 1948 et de 1967 et de la légitimité, celle du sionisme et du mouvement national palestinien. Mais les Américains ne semblent pas s'en rendre compte. L'honnête courtier qu'ils sont censés être est en fait très largement aligné sur les positions de Barack, dont il s'inquiète en permanence de la fragilité parlementaire. On ne se pose pas cette question à propos d'Arafat, qui n'est après tout qu'un dirigeant arabe comme les autres, donc un dictateur, donc il fera passer sa décision une fois pour toutes. Voilà la vision américaine. On a bien la perception qu'il sera difficile de faire bouger Arafat de ses positions de départ, mais on a conclu, en dépit des échecs de Shepherd's Down et de Genève, qu'il faut accompagner sa stratégie d'exercer la pression maximale sur le leader palestinien pour le forcer à céder. Le facteur aggravant est le poids des personnalités. Depuis Oslo, les négociateurs se connaissent bien et s'appellent de leur prénom. Comme disait l'autre, ils se tutoient en anglais. Une certaine forme d'amitié s'est établie. Cela a même une certaine tendance à les éloigner de leurs opinions publiques. Mais il n'en est pas de même pour les deux leaders. L'antipathie est réciproque entre Barack et Arafat. Le premier méprise les terroristes qui lui paraît une forme d'histrion. Le second voit dans son partenaire du processus de paix un homme aux mains couvertes de sang palestinien, au sens le plus littéral du terme. Barack a directement assassiné plusieurs compagnons d'Arafat quand il était chef des commandos israélien. Dès son arrivée au pouvoir, Barak a régulièrement cherché à le mettre de côté en privilégiant la piste syrienne et en ne tenant pas ses engagements, même quand ils étaient garantis par les Américains. Comme tous les responsables israéliens, Barak est obsédé par la puissance américaine dont le soutien est indispensable pour la survie d'Israël. Un Arafat qui fait du tourisme diplomatique international en permanence lui paraît ne pas pouvoir dire non au président des États-Unis. Or, depuis Oslo, Arafat n'a accepté les empiétements israéliens que parce qu'ils étaient définis comme provisoires, tout devant être repris lors du règlement final. Il a une parfaite conscience de l'écart des positions de départ, d'où son insistance pour la continuation des négociations préalables, que Barak a jugé avec raison conduire à une érosion des positions israéliennes. Arafat a accepté à contre-cœur d'aller à Camp David parce qu'il a compris qu'il serait soumis aux pressions conjuguées de Clinton et de Barak. Il est donc prêt, s'il le faut, à dire non à l'homme le plus puissant du monde. On n'est pas à Camp David 1, où Carter a conjugué ses efforts avec Begin, et à White Plantation, avec Arafat, pardon, c'est un lapsus d'écriture. C'est-à-dire qu'à Camp David 1, on était plutôt dans une alliance Carter à Sadat contre Begin. Excusez-moi, je fais ma correction. Sinon, je ne la vois plus. Bon, tant pis. Et à White Plantation, où Clinton a soutenu Arafat contre Netanyahou. En raison des impératifs de sécurité, les délégations admises à Camp David 2 sont réduites en nombre. Une douzaine de personnes pour chaque partie. Les experts sont logés à l'extérieur et ne seront appelés à intervenir qu'au cas pour cas. Afin d'interdire toute fuite, les invités se voient interdire tout usage du téléphone, même portable. Seuls Arafat et Barak auront droit à une ligne leur permettant de communiquer avec l'extérieur. Le porte-parole du département d'État aura le monopole des communications avec la presse. Israéliens et Palestiniens sont d'ailleurs persuadés qu'ils sont sous écoute permanente des services américains et quand ils auront besoin d'une discussion confidentielle, ils iront se promener dans les bois environnants. La délégation palestinienne ne comprend pas de juristes, d'où la nécessité de faire appel aux experts de l'équipe de soutien, mais les Américains limiteront leur accès, d'où un temps de réponse très long aux formules proposées. La délégation israélienne comprend l'attorney général Eliakim Rubinstein, le seul à avoir participé comme jeune conseiller de Begin à Camp David 1. Il vient juste d'émettre un avis juridique concluant à la non-application de la résolution 242 à la négociation en cours, puisque les lignes du 4 juin ne sont que des lignes d'armistice et que les Palestiniens ne sont pas mentionnés dans le texte. Il ne lui est pas venu à l'esprit que la dite résolution 242 ne mentionne pas non plus un traité de paix ou de relations diplomatiques entre Israël et les pays arabes et que son interprétation de la notion de frontière remet en cause l'annexion israélienne du Golan. Sa présence de Rubinstein est un avantage, mais en même temps un risque de s'accrocher à des détails juridiques au détriment de l'architecture d'ensemble. Palestiniens et Israéliens sont conscients du risque de paraître responsables de l'échec du sommet. Arafat a obtenu à plusieurs reprises de Clinton l'engagement de ne pas être accusé en cas d'insuccès. Barak a préparé toute une équipe de communication à proximité de Camp David qui est en liaison permanente avec les négociateurs israéliens grâce à la circulation de diplomates dont les immunités les dispensent des contrôles américains. À chaque moment, en dépit des engagements pris, il est possible d'informer la presse américaine et israélienne dans le sens souhaité par Barak. Les Palestiniens n'ont pas ces moyens, leur différence de statut ne leur permet pas de disposer d'immunité et Ross exerce un contrôle strict du mouvement de leurs experts. Les deux parties sont exposées aux pressions de l'opinion publique. En Israël, les partis d'opposition adjurent Barak de ne pas céder sur la colonisation et sur Jérusalem. En Palestine, le Tanzim de Barouti, bien qu'appartenant au Fatah, exige une stricte application du droit au retour des réfugiés palestiniens et, de façon plus générale, de ne pas faire de compromis sur les droits des Palestiniens. On trouve la même revendication chez les Palestiniens d'extérieur, qui échappent largement au contrôle de l'OLP. Si dans les deux peuples, bien des gens aspirent à la paix, la majorité met avant tout la défense des droits des revendications, d'où la difficulté de trouver une solution politique qui puisse satisfaire tout le monde, d'autant plus que le temps n'est plus pour les ambiguïtés constructives qui ont permis de faire émerger un processus de paix depuis un tiers de siècle. Alors là, nous allons démarrer le sommet le 11 juillet 2000. Là, c'est la photo d'inauguration où tout le monde a l'air très heureux autour du président Clinton. On sourit. On trouve que les sourires de Barack et d'Arafat ont l'air un peu contraints quand même sur cette photo. Donc, le 11 juillet 2000, à 14h15, le sommet s'ouvre et on va essayer de suivre heure par heure ce sommet, bien qu'il soit relativement difficile de pouvoir faire une chronologie exacte de Camp David II, puisque les mémoires des protagonistes comportent d'importantes variations sur les emplois du temps et des omissions de moments importants, en particulier chez Dennis Ross. Tous ces textes ont une valeur justificatrice pour rejeter les responsabilités sur les autres. Il faudra attendre la publication des procès-verbaux américains pour avoir une base plus sûre. Or, de toute façon, nous le verrons, il n'y aura que des procès-verbaux partiels de Camp David II et pas un procès-verbal total. Et au passage, l'emploi du temps officiel de Clinton, que vous pouvez trouver sur le site internet de la librairie Clinton, est insuffisant pour la période du sommet. Donc, en plus, comme ils vont souvent travailler la nuit, il est parfois très difficile de savoir exactement à quelle heure et à quel jour on se trouve dans la reconstitution que j'essaye de faire du sommet. Donc, Clinton fait un discours introductif appelant à la responsabilité historique des négociateurs. Les intéressés répondent que la participation américaine est inestimable. Puis Clinton s'entretient avec Arafat et Barack. Il tente de flatter outrageusement le premier en parlant du jour où il assistera à la levée du drapeau palestinien sur le premier État palestinien, ce qui sera le plus beau jour de sa vie. C'est ce que ses conseillers en communication lui ont conseillé de dire. Et Clinton avait répondu, le plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de ma fille. Mais enfin, bon, il a quand même ressorti la formule. Mais ça, de toute façon, ça n'aime guère Arafat. Et ensuite, on passe avec l'entretien avec Barack, où on discute entre Barack et Clinton de la stratégie de négociation. Barack lui explique sa vision des choses. Il ne se passera rien durant les deux premiers jours afin de montrer aux opinions publiques respectives que leurs représentants ont défendu avec acharnement leur position de départ. Ensuite, on jouerait de la tension grandissante pour arriver à un dénouement le 16 juillet. Cela va à l'encontre du projet américain de se concentrer sur un certain nombre de paramètres. L'idée américaine est de fixer les frontières de l'État palestinien sur les lignes du 4 juin 1967 avec des modifications pour faire passer les blocs de colonisation du côté israélien ainsi que définir des conditions de sécurité sur la vallée du Jourdain. On n'aborderait pas directement la question d'échange de territoire. Pour les réfugiés, on reconnaîtrait un droit au retour avec compensation internationale, mais Israël aura un droit souverain de déterminer qui pourra être admis sur son territoire. Pour Jérusalem, on doit prendre en compte trois réalités différentes. La gestion quotidienne de la ville sainte pour les trois religions monothéistes et la question de son devenir politique. Pour serrer les questions, on aborderait d'abord les aspects fonctionnels, c'est-à-dire la gestion quotidienne et les lieux saints avant de traiter du statut politique. Barak lui répond qu'en ce qui concerne les frontières, il faut permettre que 80% des colons se retrouvent en Israël, et la sécurité de l'État d'Israël implique l'annexion de la vallée de Jourdain, ce qui suppose l'enclavement de l'État palestinien à l'intérieur d'Israël. Pour tous les autres paramètres, il marque les positions israéliennes de départ. Défaite dès les premières heures, les Américains ont perdu le contrôle de la négociation. Ils ont perdu le contrôle de l'ordre du jour pour passer à une négociation américano-israélienne sur les paramètres du règlement. Et c'est là l'erreur de départ. À Camp David 1, un texte américain remanié un certain nombre de fois, exactement 23 fois, avait été rédigé en fonction des avancées de la négociation. De plus, Barak refuse de communiquer directement avec Arafat, voulant que tout passe par le président américain et ses représentants. C'est-à-dire, et ça va être une constante de Camp David 2, il n'y aura jamais de proposition israélienne. Il y aura des propositions américaines qui auront été rédigées par les Israéliens. Ce qui fait que ces propositions ne sont pas théoriquement endossées par les Israéliens. On passera donc à la rédaction d'un texte reprenant pour chaque chapitre les positions dites I israélienne et P palestinienne. Le soir, Clinton rencontre de nouveau Arafat, qui lui donne pratiquement les limites de ce qu'il peut faire. Le principe du droit au retour doit être d'abord posé, ensuite on en fixera les modalités pratiques. Pour la ville sainte, c'est simple, Jérusalem-Ouest aux Israéliens, Jérusalem-Est aux Palestiniens, avec gestion commune des accès et des réseaux, ainsi qu'une libre circulation des personnes entre les deux parties de la ville. Les lieux saints chrétiens et musulmans seront sous souveraineté palestinienne. Jérusalem ne concerne pas simplement les Palestiniens, mais l'ensemble des musulmans dans le monde. Clinton lui répond que c'est inacceptable pour Barak en raison de sa faiblesse politique intérieure. L'idée américaine est d'une Jérusalem agrandie qui irait jusqu'à annexer une partie des colonies israéliennes avoisinant Jérusalem, et cette Jérusalem agrandie comprendrait les capitales des deux États sans en définir pour l'instant le statut politique de ces deux capitales. En revanche, pour la vallée du Jourdain, l'idée de Clinton serait qu'elle resterait bien palestinienne avec le stationnement de troupes américaines et internationales. Arafat voit là une proposition de troc, la vallée du Jourdain contre la ville sainte, et rejette immédiatement cette perspective. Rien ne saurait substituer à la souveraineté palestinienne sur Jérusalem-Est, sinon les Palestiniens deviendraient des étrangers dans leur propre pays. Les Américains promettent un document dans les deux jours présentant leur position. Le résultat, c'est que Israéliens et Palestiniens attendent le document, il ne faut rien dans l'intervalle. Les Israéliens préparent leur propre document dans l'espoir de l'avoir pris comme base de travail pour les Américains. Dans les entretiens entre les délégations, les Palestiniens refusent de bouger sur le principe des lignes du 4 juin, tout en acceptant l'idée d'échange de territoire. Le temps monte rapidement. Au soir du 12 juillet, Clinton énumère devant les Palestiniens des principes qui vont plutôt dans le sens des thèses israéliennes, du genre quel est le pourcentage de territoire que les Palestiniens pourraient céder. Arafat sent que les Américains ont déjà préparé leur prise de position en cas d'échec et qu'ils en feront porter la responsabilité sur lui. Il se tourne vers Clinton pour lui dire « Nous avez invité à Camp David pour rejeter sur nous la responsabilité de l'échec ? Je rappelle à votre Excellence que Barak a voté contre Oslo et que maintenant il a l'intention de former un gouvernement d'union nationale avec le Likoud. » 13 juillet au matin, Madeleine Albright, en l'absence de Clinton, s'en tient à des généralités avec les Palestiniens tandis que Ross présente un projet américain à l'équipe israélienne en l'absence de Barak. Il est surpris de leur réaction négative, alors que pour les frontières, il a emprunté le vocabulaire utilisé lors de la filière suédoise. La frontière occidentale de l'État palestinien sera fixée par les lignes du 4 juin, modifiées en fonction des besoins démographiques israéliens et stratégiques. On y évoque une responsabilité, donc en partie israélienne, dans l'exode des réfugiés. En fait, ni Barak ni Arafat n'avaient accepté le document dit suédois. Pratiquement sur tous les points, les Israéliens rejettent le document américain. C'est clair et net quand Barak est informé par son équipe du contenu du document américain. Ross et son équipe entreprennent la réécriture du document. Il est soumis une nouvelle fois à Barak qui exige et obtient de nouvelles modifications. Ce n'est qu'après une série de remaniements que le document est transmis aux Palestiniens. Les garde-fous ont été multipliés. Le document ne représente pas une position officielle américaine. Tous les sujets ont été inégalement traités en détail. La définition des positions I et P n'est qu'une interprétation américaine et ne lie pas les parties. Alors, ça vous donne un texte de ce genre. Je vous cite un extrait parce que ça fait plusieurs pages. La frontière occidentale de l'État palestinien I sera délimitée en prenant en compte les lignes de 67, les réalités sur le terrain et les besoins stratégiques d'Israël. P sera la ligne du 4 juin 67. Donc, vous voyez, on ne progresse pas. Pour la répartition de la Cisjordanie, I indique une répartition de 1 huitième ou de 1 neuvième entre Israël et la Palestine, P, la totalité à la Palestine. La partie du document concernant Jérusalem n'est pas divisée en I et P. Le texte original américain dit que la région municipale de Jérusalem accueillera les capitales nationales d'Israël et de l'État palestinien. Mais après l'intervention de Barak, comme vous pouvez le voir sur cet extrait du document, la région municipale a été remplacée par la région étendue de Jérusalem. Donc, vous voyez le type de document que l'on échange à Camp David II. De même, le texte original américain avait utilisé le terme « application des résolutions 242 et 338 »,« implementation » en anglais, et c'est devenu, dans le texte corrigé, « l'accord cadre sera la base de l'application » the basis for their implications, c'est-à-dire qu'on revient sur les problèmes d'exégèse de la 242. Est-ce que la 242 est un document dont on applique point par point le contenu, ou est-ce que la 242 n'est qu'une base pour une négociation? Donc on n'applique pas nécessairement l'intégralité de la 242. 42. Les Palestiniens étudient le document dans la nuit. Arafat, peu sûr de son anglais à juste titre, s'en fait traduire une partie et il se met en colère. Cette négociation est une manipulation, une perte de temps. Pour la délégation palestinienne, ce document adopte largement les positions israéliennes et a pour but d'affaiblir les positions palestiniennes. D'où à 4 heures du matin, c'est un dur métier d'être diplomate, hein. À 4 heures du matin, la délégation palestinienne se rend dans les quartiers de Madeleine Albright pour la réveiller et pour lui signifier le rejet du document qui paraît d'inspiration israélienne. La secrétaire d'État rejette vigoureusement cette imputation et le temps monte. Les Palestiniens voulant s'en tenir à la légalité internationale et les Américains acceptent le rejet du document. La journée, c'est pour ça qu'il est difficile d'avoir le calendrier, parce qu'on est à 5h ou 6h du matin, donc les gens vont dormir 3h et puis ensuite reprennent le travail. La journée donc est consacrée à des réunions bilatérales. En conséquence, pour la suite du sommet, c'est là un élément supplémentaire du problème, il n'y aura plus de documents de travail écrit. Tout se passera oralement, d'où une confusion grandissante du fait des degrés inégaux de compréhension de l'anglais par les négociateurs, leur capacité de prendre des notes et la mémoire parfois sélective des intéressés. C'est-à-dire qu'il n'est même pas possible d'arriver à une version commune de ce qui s'est dit à Camp David II. C'est habituel. Jadis, j'avais publié le compte-rendu français de la conférence de Saint-Rémy d'avril 1920 sur les mandats, et j'avais montré combien le compte-rendu français était très différent du compte-rendu anglais. Et jusque-là, les historiens n'avaient utilisé que le compte-rendu anglais, parce que les Anglais, bons praticiens des relations internationales, avaient publié il y a 40 ans le contenu de leur procès-verbal, tandis que les Français l'avaient laissé dans les archives. Donc même dans ce type de négociation ouverte, vous avez des variations très importantes de procès-verbaux. Alors imaginez bien la confusion de Camp David. Comme le dit Madeleine Albright, en trois jours, on a consommé deux versions successives du document de travail et on a cédé devant les rejets consécutifs des Israéliens et des Palestiniens. Cela provoque une certaine tension à l'intérieur de l'équipe américaine, divisée entre représentants du département d'État et du Conseil de sécurité nationale. Ross veut que l'on s'acharne à progresser, tandis que Sandy Berger s'inquiète des risques pour la crédibilité du président. Trois groupes de travail sont formés le 14 juillet. Frontières et sécurité, Jérusalem, réfugiés. Clinton passe de groupe en groupe afin d'encourager les négociateurs. Sur les frontières, Abu Ala se montre ferme tout en proposant des échanges de territoire. La Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est représentent 6500 km². Telle doit être la superficie de l'État palestinien. Toute annexion israélienne doit être intégralement compensée en taille et en qualité. Ben-Ami répond qu'il faut prendre aussi en compte les besoins de sécurité d'Israël. Devant la peur de chaque partie de voir des fuites faire apparaître des concessions comme des abandons, Clinton pose comme principe que rien n'est acquis tant que tout n'est pas acquis. Ce qui est d'ailleurs un principe de négociation qui avait été le principe courant dans les négociations sur le contrôle des armements nucléaires entre les Américains et les Soviétiques. Tant qu'il n'y a pas un accord, tous les accords partiels qui contiennent l'accord global n'ont pas de valeur. On pourra ainsi démentir toute fuite. Mais en même temps, Clinton prévient les Palestiniens que sans concession de leur part, il n'y aura pas d'accord. Pour les réfugiés, il insiste sur l'aide internationale et demande que soit précisé dès le départ le nombre de personnes admises en Israël. Pour Jérusalem, il presse les négociateurs de traiter d'abord des aspects de la vie quotidienne sans faire référence aux questions de souveraineté. On est vendredi soir. La délégation israélienne organise un dîner de Shabbat pour tous. L'ambiance est bonne. Arafat se montre affable et prononce même quelques mots en hébreu. Au matin du cinquième jour, le 15 juillet, Barak ordonne à sa délégation de ne plus avancer de nouvelles propositions. Ross va le voir pour lui demander de cesser son obstruction. Pourquoi avoir exigé un sommet si on refuse d'avancer ? Il répond que c'est à Arafat de bouger, sinon il continuera à profiter de l'érosion des positions israéliennes. Et Barak durcit le ton sur Jérusalem. Il ne peut envisager que l'autonomie pour les villages arabes à l'extérieur de la ville sainte. Ross voit là simplement une tactique de négociation. On reprend la procédure de la veille. Une altercation marque la discussion sur les frontières. Ben-Ami demande une nouvelle fois que les Palestiniens acceptent le principe d'ajustement. Alors on pourra échanger des propositions. Abu Ala répond qu'il faut d'abord adopter le principe de réciprocité. Le temps monte rapidement, les Américains s'interposent. C'est alors que Ben-Ami ressort la carte montrée en Suède. Les Palestiniens auraient directement 76% de la Cisjordanie, ce qui est appelé ici la zone jaune, enfin elle n'est pas jaune sur cette carte. Une zone grise de 10% leur serait rétrocédée ultérieurement par étapes et sans date précise, et une zone orange de 14% serait annexée par Israël, dont la vallée du Jourdain et les blocs de colonisation. Comme vous le voyez, le territoire palestinien, dans ce cadre-là, serait tronçonné à plusieurs endroits. Et de toute façon, il serait enclavé. Abou Alaa rejette immédiatement la carte comme inacceptable. Clinton essaye de le raisonner et lui demande de faire une contre-proposition expliquant pourquoi la zone orange devrait être diminuée, ce qui revient en fait d'admettre le principe d'annexion sans compensation, tandis que Ben Ami donne son accord. Abou Alaa refuse d'en entendre parler. Clinton explose alors de colère et s'adresse à Abou Alaa, je cite, « Monsieur, je sais que vous aimeriez que toute la carte soit jaune, mais ce n'est pas possible. On n'est pas ici au Conseil de sécurité, on n'est pas à l'Assemblée générale de l'ONU. Si vous voulez donner une conférence, allez là-bas et ne faites pas perdre mon temps. Je suis le président des États-Unis, je suis prêt à faire mes bagages et à partir. Je risque beaucoup ici. Vous bloquez la négociation, vous n'agissez pas de bonne foi. » Heureusement, une averse soudaine calme les esprits. Mais le dommage est fait. Les négociateurs palestiniens se trouvent paralysés et n'osent plus bouger, d'autant plus qu'Abou Alaa, après une algarade du président des États-Unis, ne dira plus un mot du reste de la négociation. Pour Arafat, c'est bien clair qu'en David II n'est qu'un piège qu'on lui a tendu. Pour les Palestiniens, la solidarité américano-israélienne est inébranlable. Après tout, les deux tiers de la délégation américaine est composée de juifs. Si les deux tiers étaient arabes, les choses se passeraient autrement. Ce qui est un peu injuste pour ces juifs américains qui participent à la négociation, puisque des gens comme Robert Malley au Conseil de sécurité nationale ou Aaron Miller au département d'État sont nettement plus favorables aux thèses palestiniennes que Denis Ross. Mais il reste quand même qu'il n'y a pas d'Arabes ou de musulmans dans la délégation américaine. La réunion sur Jérusalem, le soir, en est la démonstration. Les Israéliens s'en tiennent à une municipalité unique, concédant seulement des pouvoirs municipaux aux Palestiniens, à l'exception du développement urbain et de la planification, planning and zoning. Le représentant palestinien n'est pas dupe. Depuis 1967, les Israéliens refusent les permis de construire aux Arabes. S'ils conservent la planification et le zoning, ils conserveront le contrôle des permis de construire. Donc, c'est une duperie que cette proposition. L'idée israélienne est de constituer autour d'Abou Dis une municipalité arabe qui prendrait le nom d'Al-Quds et qui pourrait avoir quelques compétences à Jérusalem-Est. C'est alors que Sandy Berger fait une intervention catastrophique. Pourquoi n'accepteriez-vous pas qu'un certain nombre de Juifs puissent prier sur l'esplanade des mosquées ? Les Palestiniens répondent immédiatement que ce serait déclencher une guerre de religion. Il faut respecter le statu quo qui interdit aux non-musulmans de prier sur l'esplanade. Les Israéliens restent silencieux. Selon une confidence de Robert Malley, certains Israéliens auraient suggéré cette idée à Berger. Ce serait même Barak qui aurait glissé cette idée au conseiller à la sécurité nationale. De fait, l'impasse est maintenant complète. Pour des raisons différentes, les négociateurs israéliens et palestiniens ne peuvent plus avancer de nouvelles idées. Clinton propose alors la création d'une nouvelle filière secrète, composé de deux représentants de chaque parti. Ils travailleraient d'arrache-pied pour trouver un accord. S'ils échouent, cela n'aura jamais existé. Barak désigne Gilad Shar et Ben Ami, Arafat, Darlan et Erekat, puisque Abou Alaa se tient maintenant à l'écart de la négociation. Ce qui est dommage parce que lui, il a publié ses mémoires en arabe et en anglais. C'est pas pour l'histoire. Ça, c'est une réflexion de l'historien. La seule instruction qu'Arafat a donnée à Dahlan est de défendre le Haram al-Sharif. Ben Ami ouvre le débat sur Jérusalem. Les banlieues arabes passeraient sous souveraineté palestinienne, les quartiers arabes bénéficieraient d'une autonomie fonctionnelle, les quartiers musulmans, chrétiens et arméniens de la vieille ville auraient un statut particulier tout en restant sous souveraineté israélienne. Le Haram al-Sharif passerait sous juridiction palestinienne représentant le monde musulman, Israël en conservant la souveraineté. Sheikh passe ensuite à la Cisjordanie, Israël en annexerait 12%, et 10% le long du Jourdain serait sous souveraineté palestinienne, mais loué pour une période de 20 ans, et ne serait rétrocédé qu'après l'accord des deux parties. Autrement dit, si Israël ne veut pas rétrocéder, il reste. On peut ainsi présenter l'offre comme étant de 88% de la Cisjordanie dans les limites définies par Israël. Parce que là, il faut bien comprendre les données. On raisonne en pourcentage. Mais si on prend... Les Israéliens raisonnent toujours à partir du territoire qu'ils ont défini en 67 comme étant la Cisjordanie. Tandis que les Arabes ont en référence la totalité du territoire pris en juin 1967. Car si on tient compte de l'expansion de la municipalité de Jérusalem, des annexions israéliennes dans le saillant de Latroun et la question des eaux territoriales de la mer Morte, ce n'est pas 88% de la Cisjordanie, mais 82% de la Cisjordanie. Il faut aussi tenir compte de la volonté israélienne de conserver le contrôle de certains axes routiers pour accéder à la vallée du Jourdain et du tronçonnage du territoire palestinien par les colonies juives, pour avoir une meilleure représentation de la proposition israélienne. Néanmoins, les négociateurs israéliens ont le sentiment d'avoir fait une offre considérable, d'autant plus qu'ils ont outrepassé les instructions données par Barak et s'étonnent du rejet immédiat par leurs interlocuteurs, qu'ils accusent de pratiquer l'obstruction. À la demande de l'abandon de toute autre revendication palestinienne une fois l'accord obtenu, il leur est répondu qu'il faut aussi prendre en compte les compensations pour la durée de l'occupation des territoires palestiniens, ce qui a provoqué une explosion de colère chez Ben Ami. À midi, le 16 juillet, les négociateurs épuisés transmettent aux uns et aux autres le contenu des discussions, toujours regroupés sur les chapitres I et P. Clinton s'entretient ensuite avec Arafat, qui l'avertit que si les Israéliens continuent à demander le droit de prier sur le Haram, il y aura une révolution islamique. Le président américain considère que les Israéliens ont fait de nouvelles propositions, que c'est maintenant au tour des Palestiniens d'en faire de même. Il faut qu'ils répondent à trois questions. L'acceptation d'une annexion israélienne de 10,5% de la Cisjordanie, d'une présence israélienne limitée dans la vallée du Jourdain, et des principes de la fin du conflit, même si certains points ne resteront pas réglés. La délégation palestinienne se retire pour rédiger un document définissant les positions palestiniennes, toujours les mêmes, droit international, retour aux lignes du 4-67, rectification de frontières sur base d'échanges de territoires équivalents en valeur et en importance, règlement de la question des réfugiés sur la base de la résolution 194, rétrocession de la totalité de Jérusalem-Est, à l'exception du mur des Lamentations et du quartier juif de la vieille ville. Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en 2005, puisque ça fait un bail que je fais ce coup, que la résolution 194 appelle au retour des réfugiés palestiniens à condition d'accepter de vivre en paix, ce qu'on oublie toujours, la condition de la 194, et sinon dédommagement pour ceux qui ne retournent pas. Donc il y a un glissement entre une position fondamentale qui est le droit au retour, qui peut paraître comme absolu, et la résolution 194 qui définit un certain nombre de conditions au droit au retour. L'ironie de l'histoire, c'est que c'était les Américains qui avaient rédigé et fait voter la résolution 194 et que les délégations arabes s'y étaient opposées parce qu'elles trouvaient justement qu'elle créait trop de limitations au droit au retour. Donc, en gros, les positions palestiniennes, c'est qu'il doit y avoir un échange de territoire qui serait de l'ordre de 3 à 4% de la Cisjordanie, mais égal en valeur et en importance aux annexions israéliennes. Il s'ensuit un entretien entre Arafat et Clinton. Selon la version palestinienne, l'ambiance aurait été bonne. D'après Sandy Berger, au contraire, Clinton aurait exigé la réponse à ces trois questions, sinon il mettrait fin à sa présence à Camp David. Selon Dennis Ross, Arafat aurait promis de donner rapidement une réponse. À la sortie de l'entretien, Clinton reçoit un message de Barak. Les Palestiniens ne négocient pas. Ils ne font qu'enregistrer les concessions israéliennes sans aucune contrepartie. La seule possibilité de sauver le processus et que le président secoue Arafat. Arafat doit comprendre que c'est l'heure de vérité, il doit voir qu'il a la possibilité d'avoir un État palestinien, sinon ce sera une tragédie dans laquelle les États-Unis seront du côté d'Israël. Si Arafat le comprend, il sera possible de sauver le sommet. Ross sympathise totalement avec Barak et fait porter les responsabilités sur les Palestiniens à qui il faut se montrer ferme. C'est alors que vient la réponse d'Arafat sous forme d'une lettre au contenu ambigu. Si les Palestiniens obtiennent Jérusalem-Est, ils laisseront les Américains fixer la taille des annexions en Cisjordanie et le rapport de ces dernières avec les échanges de territoires. Ainsi, le chef palestinien renverse la situation en imposant aux Américains de décider au nom des Israéliens, c'est-à-dire demander aux Américains d'exercer des pressions sur les Israéliens. Le dîner officiel est glacial, comme vous pouvez le voir sur la photo. Barak refuse de s'adresser la parole aux Palestiniens et à Arafat en particulier. Arafat a l'air plutôt tétanisé et le pauvre Clinton essaye d'entretenir la conversation. Mais franchement, pour une colonie de vacances, c'est un peu raté. Ensuite, Clinton rencontre Barak et lui explique qu'Arafat pourrait accepter l'annexion par Israël de 8 à 10 % de la Cisjordanie, sans, il ne lui parle pas de Jérusalem, et lui demande de préparer un document sur cette base. En Israël même, le Likoud organise une manifestation imposante de protestation contre le sommet. 150 000 manifestants selon la presse, plus selon les organisateurs. Sharon accuse Barak de trop céder. Et du côté palestinien, symétriquement, Marwan Barouti mène en liaison avec le Hamas une campagne contre tout abandon de Jérusalem-Est et du droit au retour. Sher Yassine est encore plus catégorique. Tout accord se ferait au détriment des droits palestiniens. Certes, une partie des protestations palestiniennes doit être encouragée discrètement par la direction palestinienne afin de montrer aux Américains que certains abandons ne sont pas possibles, mais il est bien clair que le consensus général va plutôt dans le sens d'une crainte d'une trop grande complaisance d'Arafat face aux demandes israélo-américaines. Ainsi, l'autorité palestinienne s'est trouvée dans l'incapacité d'organiser des manifestations de soutien à Arafat. Sa popularité est intacte, mais à condition de rester ferme lors des négociations. Le matin du 17 juillet, Madeleine Albright sonde maladroitement Abu Ala et Abu Mazen pour savoir s'ils seraient prêts à se désolidariser d'Arafat en cas d'échec. Ses interlocuteurs lui répondent que c'est impensable et qu'aucun Palestinien ne cédera sur Jérusalem. Alors, nous sommes en pleine angoisse. Nous allons faire une pause de 5 minutes pour savoir si on va avoir un succès ou non à Camp David.